Bonjour et bienvenue dans le Bulletin Azur épisode 4, enregistré le 5 janvier 2012. Eh bien, nous voici donc dans cet épisode qui a comme URL de référence ak.ms/lebulletinazur. Les annonces sont faites sur Twitter sur @windowsazurefr. Je suis Benjamin, @benjguin.
Donc Pierre Cousy,
Thomas Comté.
Voilà, donc bonne année,
Bonne année,
puisque nous
bonne année
sommes
2012.
en début d'année, donc ça se fait.
Absolument.
Bonne année.
C'est la tradition. Bonne année pleine de cloud et de projets.
Voilà, donc nous
Voilà.
allons passer aux nouvelles sans plus attendre. Donc on s'appuie sur l'épisode 67 de Cloud Cover Show, nos grands cousins américains, mais aussi pas mal et surtout des annonces qui ont été faites le 12 décembre 2011, donc le 12 décembre dernier. Avant ça, les nouvelles locales. Les sessions des Tech Days sont en ligne, elles sont sur mstechdays.fr. Ce qu'on vous conseille, c'est d'aller dans les sessions et ensuite de faire rechercher une session et de taper Azure. Et là, vous allez tomber sur un paquet de sessions. Donc, on a plusieurs rubriques. Une première rubrique, découverte et nouveautés depuis un an, Pierre?
Oui, donc alors c'est pas les sessions qui sont en ligne, hein, c'est le programme. Les sessions sont en
Oui,
ligne
c'est
quelque
vrai.
part fin février, mais je vois ce
Exact.
que tu veux dire.
Ouais.
Donc on a en gros d'abord un petit paquet de sessions sur soit vous n'avez pas touché du tout Azure et il s'agit de le découvrir,
Ouais.
donc on voit un petit peu tous les domaines. Soit vous avez déjà touché Azure mais c'est un peu dormant et vous voulez vous remettre à jour rapidement pour voir ce
Qu'est-ce
qui a
qui s'est
changé depuis
passé
un
depuis un
an,
an?
etc.
Voilà. Vous êtes venu au Tech Days l'année dernière, mais depuis, vous n'avez pas retouché Azure.
Exactement, donc ça c'est pour avoir un accès facile à la plupart des domaines. Et c'est sous plein d'angles différents. Hein. Donc quel
Ouais.
que soit le parcours initial, on va trouver de quoi se mettre à jour.
Deuxième rubrique, Interop. Pierre?
Oui, bah écoute, alors pas tout seul, hein, mais effectivement, on a pas mal de sessions qui parlent d'Interop et
Ouais.
beaucoup plus large que ce qu'on a là. Mais il y en a trois qui sont marrantes et qu'on a décidé de vous présenter rapidement. Donc une qui va parler un petit peu de Jonas
Jonas.
avec Bull qui viendra apporter un petit témoignage là-dessus.
Avec du Java.
Voilà. Une où on va passer dans Hadoop.
Parler de MapReduce, un éléphant
Exactement.
jaune.
Ben voilà, ça va nous changer de PHP. Et une troisième session qui est plus une curiosité. Autant les deux premiers, on parle d'environnement de prod, testé, etc., etc. Autant on a décidé de faire le tour de tout ce qu'on pouvait faire sur Azure. Et donc en
Ouais.
une heure, on va faire des choses qui sont à la fois des trucs qui marchent, des choses qui sont juste des preuves de concept, des idées un peu fantaisistes. Et on passe une heure à faire le tour de tout ce qu'on pourrait faire sur Azure.
Donc, et puis on a une rubrique témoignage également, Thomas.
Donc on va passer en revue quelques vrais scénarios
Ouais.
voilà, avec des vrais clients.
Des trucs de la vraie
Alors
vie.
parfois on ne pourra pas forcément, enfin bon, on va faire ça avec des partenaires, donc
Ouais.
par exemple Logica pour l'e-commerce.
Ouais.
Sur Facebook, ça sera Tequila Rapido qui a fait pas mal de choses à la fois des sites Facebook et puis ils ont une solution de monitoring de statistiques Facebook.
Et sur Media, c'est Microsoft avec le groupe de développement Xbox Live Music qui est situé en France et qui va nous parler de son expérience. On a également une rubrique architecture. Donc, on s'est vu avec les speakers pour parler des patterns un peu. Ils sont repartis avec
Une sacrée
une
liste de
journée
courses,
de
oui.
presse à peu près. Donc, ils ont plus qu'à à concentrer ça en une heure. Et puis, on aura également une présentation d'une nouvelle brique dont on parlera après, qui est l'EAI dans Azure. Et puis, il y a également tout un tas de sessions sur SQL Azure, les fédérations, le data sync, des choses comme ça.
Oui, donc ça c'est vraiment à suivre parce qu'il y a eu plein de nouveautés qui sont arrivées au fil de l'eau. Et du coup, on aura à peu près tout à présenter en une seule fois au Tech Days. Et pour les gens qui ont regardé SQL Azure en se disant c'est SQL Server,
Ouais.
c'est vrai, mais il y a plein de trucs qui apparaissent maintenant et qu'il faut regarder qui donnent plus de fonctionnalités.
Très bien. Également un point sur les prochains événements. On a donc deux prochains événements le 17 janvier. Donc voilà, mais sauf que
En
c'est
même
pas
temps, c'est
en
fort.
même temps, mais c'est pas au même endroit. Donc
Ils sont très très forts.
allez sur le blog Windows Azure France et vous trouverez ces événements. Donc nous avons l'épisode 67 du Cloud Cover Show qui a parlé en fait de HPC sur Azure. Donc en fait, on imagine qu'on a toute une ferme de worker role qui font plein de travail, mais il faut avoir un scheduler pour organiser tout ça. Et donc Yan Mingye nous fait une présentation de ça avec une démonstration où il explique comment est-ce qu'il peut faire des calculs avec des dessins, etc. Qui sont, enfin des dessins d'écoulement de fluide sur une voiture, si je me souviens bien.
Ouais.
Pierre, tu l'as regardé plus récemment que moi.
Oui, alors il est un tout petit peu différent des cloud cover show habituels, au sens où il est entièrement consacré à ça.
Ouais.
Donc d'habitude, il y a 8 ou 10 trucs qui sont vus pendant, pendant le show, et là, on est vraiment concentré sur cette partie-là.
Voilà, exactement. Très bien. On va parler des nouveautés du 12 décembre dernier. Donc, en premier, il y a eu un nouveau portail qu'on voit ici.
Donc là, donc le portail, on va dire, le portail de présentation commerciale du produit. Le portail de management n'a pas encore changé. Par contre, le portail WindowsAzure.com a été entièrement refait.
Exactement. Donc, on a un magnifique château maintenant.
On a le château de la Belle au Bois Dormant. Hein, oui. C'est Walt Disney, le nouveau thème.
Avec un nuage,
parce qu'il faut quand même des nuages.
C'est du cloud computing.
Il ne faut pas abuser.
Voilà. Et on peut peut-être rassurer quand même, il existe aussi en français. Hein,
oui.
Un maniaque, il a une machine en anglais, mais on a le même en français.
Et donc, voilà. C'est le portail. On va y revenir. On naviguera un peu dedans tout à l'heure. On a également toutes les nouvelles qui ont été précisées par Christopher sur le blog, toujours Windows Azure France. Dans ces rubriques-là, on a une première rubrique, simplicité d'utilisation.
Absolument. Donc déjà le process d'enregistrement, donc si vous avez jamais essayé de vous enregistrer sur la plateforme Azure, vous avez de la chance déjà.
Ouais.
Mais maintenant ça va être plus facile. Avant c'était un peu complexe, il y avait je crois 12 étapes ou 10 étapes.
Mm-hmm.
Là si vous essayez d'aller notamment dans les offres gratuites qui sont disponibles directement sur la homepage du portail, vous avez une petite pop-up, il y a un login Live ID.
Ouais.
Il y a choisir une souscription. Donner éventuellement les informations de paiement si c'est une souscription payante, et c'est tout.
D'accord.
C'est super rapide, super, super facile.
Il y a aussi le fait de pouvoir voir ce qu'on a consommé
donc,
quasi en temps réel.
Voilà, ça c'est l'enregistrement sur le portail.
Ouais.
Ensuite, dans le portail de billing a bien changé.
Mmh.
Le portail de billing a bien changé. On a d'abord une sorte de synthèse avec toutes les grandes rubriques de ce qu'on peut consommer, les bases de données, le stockage, le CPU. Et puis ensuite, quand on va dans la liste des factures, on a une vue beaucoup plus compréhensible que ce qu'il y avait avant, avec une première vue synthétique avant d'aller éventuellement télécharger le détail.
Ouais.
Donc c'est vachement plus simple de comprendre qu'est-ce qu'on dépense.
D'accord, très bien.
C'est important quand même.
Et puis également la base qui a été multipliée par 3,
parce
que l'Azure.
Absolument.
Alors, en gros là-dessus, donc on a un mécanisme un peu marrant, c'est que donc est-ce que l'Azure s'est tarifé en gros au giga occupé par mois, jusqu'à 50 gigas.
Ouais.
Et de 50 à 150 gigas, le prix reste flat, ça ne bouge pas.
Ah oui.
Donc une fois qu'on a dépassé 50 gigas, l'infini est ouvert jusqu'à 150 sans changement de tarif.
Donc c'est 499 $ finalement le maximum.
Ouais.
Et 50 ou 100 ou 150 gigas. Quoi.
D'accord. Ensuite, il y a des nouveautés sur lesquelles on va revenir, plateforme ouverte et flexible. Et puis plus de valeur. Donc, en gros, moins cher.
En gros, des baisses de prix. Alors, il y a eu quand même pas mal de baisses de prix. On rappelle baisse de prix du coût du stockage, qui est passé de 15 centimes à 14 centimes le giga, plus un coût dégressif.
Ouais.
La base de données, on vient de le voir,
hein,
quand même capé finalement à 50 gigas, et puis après, on monte à 150 gigas pour le même prix.
La micro-instance.
Les micro-instances, qui ont baissé à 4 centimes de
l'heure,
c'est ça. Et là, le coût de transfert des données était à 15 centimes par giga en Europe et aux US, il est passé à 12 centimes.
D'accord.
Toujours en téléchargement, sachant que l'upload est toujours gratuit.
Cool.
Donc c'est bien.
Ensuite, on a également un point sur les SDK, parce qu'en fait, il y a pas mal d'annonces différentes, mais au final, on se retrouve avec plein de SDK différents qu'on voit entre autres dans le portail sur la partie develop, où on voit .NET, Node.js, Java, etc. Donc en gros, et puis Other. Donc on commence par Other, dans lequel effectivement, ils sont les outils fondamentaux du SDK, à savoir comment est-ce que je crée un package avec les CS packs, etc., les outils en ligne de commande et tout, et à partir de là, on va pouvoir faire tourner des choses comme du Python par exemple ou des choses comme ça directement dans Azure. Ensuite on a une deuxième partie qui est .NET, donc ça c'est le SDK. Alors ce qui est important de dire c'est que le 12 décembre il n'y a pas eu un nouveau SDK pour .NET, c'est toujours le SDK 1.6 qui était déjà sorti en novembre.
Qui date de novembre, absolument.
Donc voilà. Et puis Node.js, donc ça c'est un nouvel SDK.
Absolument.
Dont tu vas nous reparler, je pense.
Deux qu'on va reparler après, on va se balader dans le portail développeur.
Exactement, ou... donc entre autres, on a plein de...
Donc un SDK intégré, voilà, donc on télécharge, alors ça se fait avec le Web Platform Installer ou ce qu'on veut en fait, et ça installe Node, version Windows, NPM qui est le Package Manager, et des commandlets PowerShell qui permettent de créer un service, déployer un service, etc., sans avoir à utiliser Visual Studio.
Bah oui.
Ce qui est quand même pratique, puisque si on fait du Node, on ne fait pas forcément du Visual Studio.
Donc, Node, pour rappel, c'est pour du développement JavaScript sur les serveurs. Et puis, on a également la partie Java, où là, il y a eu des, il y a eu quelques nouveautés également, entre autres pour pouvoir accéder au storage,
alors,
etc.
Ouais, après, on pourra regarder. Donc, à chaque fois, en fait, il y a un support pour créer un projet et le déployer. Hein, donc, dans Node, c'est des commandlets. Pour Java, c'est du, des extensions Eclipse qui permettent de créer un projet et qui font plein de trucs très 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 malignes. Hein. Notamment, ça peut vous automatiser l'installation de Application Request Routing ARR de 2IS pour gérer l'affinité de session. Et ça, juste en cliquant une case, donc c'est assez sympa. Et puis, à chaque fois, en plus du tooling, il y a des librairies. Hein. Donc pour Node, il y a des librairies d'accès au storage. Pour Java, il y a des librairies d'accès au storage, également au service runtime. Alors, tous les SDK ne sont pas exactement au même niveau en termes de ce qu'on peut accéder comme API nativement. Mais le but, c'est qu'il y ait parité entre .NET, Java, Node et PHP.
Et on a souvent, au moins au départ, l'API REST qu'on a dans Other.
Au pire, on, on redescend dans l'API REST. Il faut dire qu'elle n'est pas forcément... Elle est un peu subtile à utiliser. Il y a 2-3, il faut signer les entêtes des requêtes HTTP. Il y a 2-3 subtilités. Quoi.
Et après, si on veut mettre un koala, comment est-ce qu'on fait, Pierre ?
Ça, c'est un koala Drupal, hein. C'est un peu plus spécifique. Donc, en gros, sur le SDK PHP, on a donc, pareil, des outils en ligne de commande, donc, qui sont des scripts PHP qu'on lance en, en console et qui font toute la gestion et l'administration directement.
Ouais.
Ça, c'est le premier élément. On a toutes les librairies clientes qui vont être utilisées pour accéder au storage, pour accéder à tous les éléments. On a un mécanisme de déploiement qui repose sur enfin, je ne vais pas rentrer dans tout ce détail, sur des scaffolders qui permettent de
échafaudages.
Déployer, voilà, et qui permettent de déployer les frameworks PHP. Parce qu'en PHP, c'est pas seulement le langage, il y a souvent les frameworks qui l'accompagnent. Ouais. Et donc, du coup, les différents CMS sont encapsulés, dont Drupal, effectivement, avec un splendide article de Benjamin, je pense, qui explique comment, comment faire ça.
Très bien. Thomas, tu nous as fait aussi une synthèse des annonces.
Ouais. Donc là, le but, c'était d'avoir sur une seule page, finalement, tous les liens vers tout ce qu'on a mentionné là, rapidement. Donc, le centre de développement, les SDK Node et Java. Sachant que le SDK PHP, finalement, c'est le même qu'avant. Là.
Oui.
Il est dans le portail, il n'a pas changé juste à cette occasion-là.
Ouais. Un nouveau logo.
Voilà, il a été un peu inclus.
Logoifié.
Il était logoifié. Des liens vers les codes sources. Alors, ce qui est sympa, c'est que pour Node.js et Java, tout est sur GitHub. Donc, tout le code est disponible, on peut tout regarder.
D'accord.
Le lien vers le plugin. On parle rapidement peut-être des solutions tierces, donc MongoDB, Solr, même CacheD.
Et Lucene.
Et donc, qu'est-ce que ça fait en gros, MongoDB
MongoDB, ah ben ça c'est Pierre, MongoDB c'est...
C'est la base NoSQL du moment. D'accord. Et il se trouve que son éditeur TenGen l'a packagé pour qu'elle puisse tourner facilement sur Azure.
D'accord.
Voilà pour celle-là.
Donc, Solr et Lucene.
Donc c'est un couple. Lucene c'est un moteur d'indexation. Solr c'est un frontal de requêtage qu'on pose par-dessus.
Voilà, avec
c'est,
le
du,
service et tout.
C'est du Java, on peut le préciser. Hein. Oui. Donc là, il y a du code et de la config pour le packager, l'héberger facilement. Donc en gros, dans Windows Azure, niveau moteur de recherche, indexation, recherche, c'est peut-être une des meilleures solutions qu'on ait actuellement.
Voilà. Même CacheD.
Même CacheD, c'est souvent utilisé en PHP, mais pas que. Hein, donc c'est super connu, hein, c'est une librairie de base.
C'est un cache réparti.
C'est un cache réparti. Et là, l'idée, c'est d'avoir. Ça s'appuie d'ailleurs sur le SDK PHP et sur les scripts et les scaffolders en fait, du SDK PHP pour packager MCacheD avec au moins deux instances pour avoir une bonne disponibilité, etc.
D'accord. On a également Hadoop, donc là c'est l'implémentation MapReduce, je pourrais vous montrer le portail après, comment est-ce qu'on crée un cluster, mais en gros c'est pour pouvoir aller chercher dans un amas de données non structurées, de la big data, et faire travailler plein de nœuds en parallèle pour qu'ils puissent aller chercher tout un tas de données dedans, et ensuite... consolider tout ça.
Donc ça, Hadoop, c'est en bêta un peu privé dans le sens où il faut s'inscrire sur Connect et il faut demander. Donc, si vous avez des projets Hadoop, vous qui nous écoutez, chers téléspectateurs, contactez-nous et puis on vous pourra faciliter l'accès
exactement
à la bêta.
Et puis, est-ce que l'Azure ?
Parce que d'ailleurs, je ne sais pas si on en reparle après.
Oui, les fédérations.
Voilà, en gros, bon, voilà, y a la base qui a augmenté de taille. Ouais. SQL Azure Fédération, on va en reparler pour le sharding. Et un nouveau portail d'administration SQL qui permet, qui est nouveau. Et
d'accord. Il y
a un look métro et qui permet, comme avant, bah, de créer des tables, administrer, accéder aux données, etc. Mais avec un look plus poli. Voilà.
Ouais. Voilà. Il a une très grande qualité. C'est qui permet de gérer les fédérations.
Oui, de créer les fédérations. Ouais.
Et donc ça, c'est à peu près le seul outil aujourd'hui qu'on ait qui permette de le faire de cette façon-là. Et après, bah, vous verrez, l'interface a un peu changé. Donc, voilà. On aime ou on n'aime pas.
Alors, on va y revenir avec les fédérations. Ouais. Donc on a le portail Windows Azure, le nouveau portail. Donc si on regarde un peu dedans, alors, entre autres, alors ça a été simplifié.
Ouais, ce qu'on peut dire peut-être juste, en, voilà, ce qui est intéressant si vous vous intéressez à la plateforme Azure quand même, c'est que là on a quand même, on a tout mis dedans quoi. C'est-à-dire qu'avant c'était un peu réparti, on ne savait pas s'il fallait aller sur MSDN pour certaines infos, sur WindowsAzure.com pour d'autres, sur Microsoft.com/Azure. Pour, là il y a tout, il y a le pricing, il y a toutes les informations pour les développeurs, il y a l'accès au support, l'accès à votre compte de billing. Ah, c'est vraiment essayer de clarifier un peu tout.
Et même
les...
sur le pricing, en fait.
On a un pricing calculator qui est.
C'est devenu assez simple. Et
voilà. On a deux pricing calculators maintenant.
Il y en a un premier niveau qui est là.
Voilà,
tout de suite,
donc
quoi.
Là où je fais bouger, tac, je mets du stockage pour 3 teras.
Voilà. On peut se faire un petit pricing tout de suite. Et ensuite, voilà. On a un full pricing calculator qui est plus détaillé.
Voilà, où là, il y a un petit peu plus de curseurs.
Il y a plus de curseurs. Donc, voilà. Clairement, pour se faire une première idée, la première version est très largement suffisante puisqu'elle permet de mettre les gros morceaux.
Les gros cailloux, quoi.
Voilà, la base, le compte, etc.
Ensuite, il y a la partie develop. Donc, c'est celle sur laquelle qu'on a évoqué jusque-là, donc avec les différents éléments. Et puis, il y a également dans les onglets à noter le support où on peut effectivement savoir comment contacter le support.
Ou alors le dashboard, parce que je vous mets au défi de retrouver le dashboard dans l'ancien site.
Ouais.
Il était vraiment perdu. Donc, le dashboard, ça permet d'avoir des informations sur l'état des services dans Azure, savoir si c'est.
Voilà.
Généralement, c'est plutôt vert.
Voilà,
si jamais il y a un problème, ça passe orange.
Comme ça, on le sait.
Voilà.
Les fédérations. Donc, à l'occasion de la sortie des fédérations, on a un wiki qui nous donne, donc qui a été fait par Sian Bilikoglu, le spécialiste des fédérations.
Il fait tout sur les fédérations. Il les développe, il écrit dessus, il documente, il fait les listes.
Exactement. Monsieur Fédération.
Et donc, qui décrit tout ça. Et entre autres, il décrit également la façon dont on peut utiliser le portail. Donc, le portail, le vrai, il est plus net que celui-là. Ça, c'est la copie d'écran qui est un peu floue. Et donc, on peut créer une fédération à partir de là et il explique comment est-ce qu'on peut faire, etc. Il y a même des vrais morceaux de code dedans.
C'est fort détaillé.
Comment est-ce qu'on peut voir sa fédération de façon graphique dans ce nouveau portail ?
Juste fédération en deux mots pour les gens qui n'ont pas suivi.
Ah oui, pardon. Vas-y.
C'est toi que tu proposes.
Ouais. Bon, d'accord. C'est celui qui dit qui.
Non, c'est... Donc, le monde NoSQL appelle ça du sharding. Le monde SQL Azure appelle ça des fédérations. Mm-hmm. C'est la capacité à éclater une base qui normalement tient sur une base physiquement, sur N bases, en donnant des critères objectifs de répartition et en expliquant ce qu'on peut éclater et ce qu'on doit garder à différents endroits.
D'accord, donc par exemple, j'ai 200 gigas de données avec des comptes de clients. Je vais mettre tous les clients de A à J sur une première base et tous les clients de J à Z sur une deuxième base, pour faire un exemple un peu simple.
Et préciser que voilà. Quelques données de référence vont être présentes dans chacune des bases, etc. C'est l'idée, oui.
D'accord. Très bien. Parle-nous de ta nuit, Pierre.
Ah, donc il y avait, juste après les annonces de décembre, le 13 décembre, donc le lendemain, une journée complète à l'heure américaine, donc une nuit complète à l'heure française.
consacrée... 18h à 2h du matin, je crois.
Oui, c'est ça. Oui. Consacrée à la fois à découvrir Windows Azure à partir de zéro et aussi avoir un focus sur les principales nouveautés.
Donc, ça a été enregistré.
Alors ça a été enregistré, tout est disponible sur Channel 9.
S'il avait su.
Non, c'est bien en direct. Il y a même plus de sessions enregistrées que de sessions réellement données, parce que certaines sessions avaient été préparées.
D'accord.
Et donc deux, trois sessions qui sont intéressantes à regarder. Alors dans la toute première, ce qui est faite par Scott Guthrie, qui donne un petit peu
le keynote,
etc. Il y a une démo assez agréable qui montre Node.js notamment avec toute la partie comme en fait PowerShell d'administration.
Ouais.
Donc qui est présenté par la personne qui tient l'expérience développeur aujourd'hui autour d'Azure. Donc, ce n'est pas inintéressant. Mm-hmm. Un peu plus bas, on a une discussion sur le tuning et les performances qui est faite par David Aiken, Voilà, Building Scalable Cloud Applications, qui est très bien.
Je le mets bien au milieu, là.
Voilà.
Ah, voilà.
Donc c'est quelqu'un qui a fait à peu près tous les métiers. Il connaît extrêmement bien les problématiques classiques de montée en charge. Alors, il est parfois un petit peu mauvaise langue, il est parfois un petit peu cynique, mais on sent beaucoup de vécu dans ce qu'il raconte.
D'accord.
C'est très, très agréable. Mmh. Et enfin, juste en dessous, à la fin de la journée, il y avait un Q&A avec Marc Krasinovitch qui fait des choses un peu techniques de temps à autre, Dave Campbell qui pense un petit peu de temps à autre.
Marc Krasinovitch, quand il n'écrit pas des romans d'espionnage.
Voilà,
un Q&A en français, c'est un QR, hein, c'est ça?
Oui. Mmh. Voilà. Il n'y a que D'accord. FAQ qui marche oui. dans les deux langages.
Question. Très bien. Donc voilà, un peu pour résumer ta nuit, quoi.
Voilà. Oui, c'était les trois passages principalement intéressants. Il y a d'autres choses, hein, mais ouais, chacun prend ce qu'il a mis
dessus. D'accord. Moi, j'ai vu à un moment le Windows Azure Portal piloté par Kinect aussi.
Et un Cloud Cover Show dédié qui avait lieu sur site également.
Il y a le best-of du Cloud Cover Show aussi qui est pas mal.
Ouais.
Qui est marrant. De façon plus anecdotique. Ensuite, dans les nouveautés qui ont eu lieu juste après le 12 décembre, alors c'était peut-être le 14, je ne sais plus, il y a eu en fait toute une brique qui est l'EAI, en fait, c'est-à-dire une sorte, les mêmes un peu fonctionnalités que ce qu'on a dans Bistock, mais adaptées au nuage. Et donc, EAI, c'est Enterprise Application Integration.
Absolument.
Et donc, il y a blog post qui nous parle de ça, de ce que ça fait, de quels sont les patterns qui sont implémentés, et même quelques copies d'écran qui montrent comment est-ce que ça se configure. Et puis on a également la même chose, un autre blog post, mais qui lui parle également de la partie EDI, donc là qui annonce en fait la sortie de EAI et EDI dans Azure sous forme de CTP ou de lab.
D'accord.
Voilà, voilà. Ensuite, nous avons le portail hadoop-on-azure.com. Donc, quand on arrive sur un compte, on peut créer un nouveau cluster sur lequel on va pouvoir faire des calculs Hadoop. Donc, par exemple, si je dis que je veux que ce soit sur monelephant.cloudapp.net, que je veux avoir 16 nœuds et que l'administrateur s'appellera mon admin ou mon conducteur d'éléphant, Cornac, par exemple, et puis un mot de passe. Et ensuite, on demande le cluster et il crée un cluster dans Windows Azure. Data Explorer.
Oui, Data Explorer, Benjamin.
Donc, en fait, c'est une sorte d'ETL dans le nuage, en fait, qui permet d'aller faire son propre mashup. Alors, c'est dédié vraiment pour des utilisateurs finaux. Enfin, c'est pas dédié, c'est pensé pour des utilisateurs finaux. Donc, le but est d'aller chercher ces différentes données et de les récupérer jusque dans Excel. Mais l'avantage, c'est qu'il garde le chemin pour obtenir ces différentes données. Et donc, c'est comme ça qu'on peut exploiter ce lien de façon dynamique par la suite. Ensuite, un exemple de code. Donc, à l'occasion d'un concours qui a eu lieu en décembre pour faire des images virtuelles, des images de synthèse avec du ray tracing qui a été organisé par David. On a eu le besoin de pouvoir déployer automatiquement cet exemple de code qui était avec un web role et un worker role. Pour ça, on s'est appuyé sur le .publish settings dont on avait déjà parlé, qui est sorti avec le SDK 1.6.
Oui, donc là, montre l'URL, que ce soit clair pour tout le monde, parce que c'est
dessous,
un point
là,
très important.
En dessous,
voilà, au milieu de ton écran.
Voilà. Le download, en fait, il y a deux bouts. Il y a une partie dans le portail Azure où, en allant sur download/publish-profile.spx, on reçoit un fichier XML avec dedans tout ce qu'il faut pour publier dans Azure.
Oui.
Et ça évite d'avoir à gérer les certificats, saisir l'URL qui va bien, etc. Il y a un petit fichier, il y a tout dedans. Il y a le certificat, il y a tout.
Il manquerait juste un petit bout de code permettant d'exploiter ça facilement.
Alors, dans les commandlets Node notamment, il y a de quoi faire ça.
Mais sinon, je crois qu'il y a un type
qui s'appelle
Benjamin.
Et cet exemple-là montre aussi comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc, c'est une console en C#, hein, et qui s'appuie sur les API REST pour la plupart. Il y a juste un moment où j'ai utilisé quand même les API de Blob pour pouvoir uploader le package avant, mais on doit pouvoir le faire en REST aussi. Mais bon, j'avais pas un temps infini comme tout le monde.
Donc, ça automatise le déploiement
Par
les push settings d'une solution.
Sur un exemple concret, mais c'est facilement adaptable du coup. Cas en ligne de commande, le fait de pouvoir autoriser le remote desktop depuis des commandlets. Donc avec, c'est avec un update de, sur Node.js, donc ça permet de faire ça sans passer par Visual Studio ou d'autres mécanismes, et donc ça fait toute la tuyauterie. C'est assez pratique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer à la suite, qui est la démo de Node.js.
SDK Node.
Tu vas montrer ça ?
C'est parti. Donc, ça va être une démo très très rapide, vous allez voir, puisque le SDK Node est très très pratique à utiliser. Donc, dans ma collection de SDK Windows Azure, j'ai un nouveau maintenant qui s'appelle SDK pour Node.js.
D'accord.
Dans lequel il y a une petite page Getting Started. Et puis, il y a tout simplement un prompt PowerShell.
Oh.
Très beau. Alors, le choix des couleurs, on le doit à Pierre. Merci Pierre pour ce très beau fond jaune.
Oui, c'est un grand fan d'accessibilité.
Voilà, là on est bien. Donc, si vous faites get module, on voit qu'on a un module Azure Deployment CMDLets qui a été ajouté. Et si on fait un get commande, ajoute autre chose, parce que moi j'ai toujours un peu de mal à me souvenir des commandes. On peut faire comme ça, Deployment CMDLets, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et on voit toutes les commandes lets qui sont dans ce module. Et on voit donc ça cause de Azure Service, de Node, etc. Donc le principe général, c'est qu'on va où on veut un peu. Mm-hmm. On fait New Azure Service, par exemple Bulletin.
Ouais.
Bulletin Azure. Hein, pourquoi pas. Le service a été créé. Donc à ce stade-là, on a...
Là, t'es dans l'émulateur. Hein.
Là, je ne suis nulle part pour l'instant. Je suis dans une console PowerShell. Et l'avantage de Node, c'est que c'est des petits fichiers texte dans des répertoires. Il y a,
donc,
voilà.
Juste créé...
Donc là, ça va créer un répertoire, ça va créer des fichiers de configuration qu'on peut regarder, hein, puisqu'ils sont après modifiables à loisir. Donc, oui, alors il faut un éditeur qui sache aller à la ligne, mais ce sont les fichiers XML classiques de configuration Azure. Donc ça, d'accord, on peut les modifier comme on
les
veut après.
CSDF et CSConfig.
Exactement. Ensuite, pour l'instant, on a un service qui est vide. Il nous faut quand même là-dedans des rôles, ouais, typiquement un web role. Alors, on a des commandes pour faire des web roles, des worker roles. Là, on va faire un web role. Et ce qu'il vous dit, alors on est quand même sur un truc qui est spécialisé Node. Il vous dit, ça vous a créé un web role Node un peu vide. Il y a juste un source, on peut aller dedans. Il y a un exemple, server.js, avec le bon vieux Hello World. D'accord.
Oui, indispensable.
Donc si on connaît Node, il y a juste une petite subtilité qui est qu'on peut récupérer le port dans process.env.port, et ça c'est Azure et 2IS qui prépare l'environnement, comme ça vous avez le port. En fait, ce qui se passe, c'est que 2IS est préconfiguré pour faire frontal devant Node, pour pas qu'il prenne les requêtes directement. Et on a un plugin qui s'appelle IIS Node qui passe les requêtes à Node. Voilà.
D'accord.
Donc ça c'est bien, c'est plutôt une bonne idée.
Donc Node fait le processing et IIS fait le frontal.
Voilà. Exactement. Et après, ça permet d'avoir, d'utiliser tout ce qu'on veut dans 2IS, des rewrite URL, tout ce qu'on a habituellement pour gérer le frontal web.
Oui. Et des fermes et d'avoir plusieurs process en parallèle.
Alors, effectivement, ça permet d'avoir plusieurs process Node en parallèle, parce que par défaut, Node, il est mono-process, mono-thread, quelque part, c'est le principe de Node. Hein.
C'est même brasé, oui.
Voilà. Mais c'est vrai que quand on a une grosse machine avec 4 cœurs, ça peut être sympa de pouvoir avoir au moins 4 process Node, un par cœur. Et donc là, IIS Node fait ça. Et c'est bien pratique, ma foi. Dans la distrib, on a aussi NPM. Donc NPM, c'est le Node Package Manager, qui permet d'aller chercher alors les frameworks classiques comme Express, sauf s'il ne veut pas, parce que tout à l'heure, depuis le réseau CorpNet, ça ne marchait pas. On coupera. Donc, en théorie, tu peux faire NPM install Express. Pour Express, c'est un framework Node web.
D'accord.
Et nous, ce qui nous intéresse, ce serait NPM install Azure qui va installer les librairies Azure pour accéder au storage. Exactement.
D'accord.
Voilà, c'est le principe. Ça, NPM, c'est du pur Node. Hein.
D'accord.
Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire start Azure Emulator, comme ça.
Ah là, tu vas être dans l'émulateur, là.
Et là, cette fois, tu peux le lire, je vais être dans l'émulateur. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il package ça et le lance dans l'émulateur local. D'accord ? Donc au final, si on veut faire du Node, on a juste eu à installer le SDK Node Plus et le SDK Windows Azure qui fournit l'émulateur, et c'est tout. Hein, on peut faire tout avec du Notepad, lancer en local, et ici, avoir un petit Hello World. Tadam ! Fantastique.
Tadam !
Pas un point d'exclamation.
Non, pas dans celui-là. Alors après,
c'est la version sans point d'exclamation.
Je vais pas le faire parce que en live ça prendrait juste 5 ou 7 minutes, donc ça prendrait juste un peu plus de temps. Mais je peux également aller, bien sûr, le déployer en prod. Oui. D'accord. Et donc, on en parlait rapidement tout à l'heure du Publish Settings. On a une commande qui s'appelle Get Azure Publish Settings.
D'accord.
D'accord, ça, je peux le faire. Get Azure Publish Settings. Hop, il vous envoie sur le portail.
Là, c'est là où on rentre son Live ID.
C'est là qu'on rentre son Live ID qui a expiré en l'occurrence. Et il vous télécharge les settings dans un fichier.
D'accord.
Que l'on sauvegarde, par exemple, dans TMP, hein, ici.
Ouais, c'est un bon endroit.
Ah, c'est pas mal. Et qui a tout ce qu'il faut dedans pour publier le service. Donc, c'est
D'accord.
cool. Il n'y a rien à télécharger, rien à installer. On est prêt. Mais après, pour effectivement faire la publication, on a une commandlet qui est. Donc, on fait un import des publish settings avec la commandlet qui va bien. Et ensuite, on fait publish Azure service.
D'accord.
On donne la location North Europe, par exemple, pour.
Ouais. Dublin.
Bravo. Et ça, bon, ma session a réellement expiré, mais ça le déploie dans le portail en production. Voilà.
D'accord. Et du coup, on peut dire hello world au monde.
Exactement.
Cool.
Et tout le monde peut aller dire hello world tout de suite. Et là, vous avez l'output, vous voyez ce que ça a fait donc, entre la connexion et le déploiement.
Eh bien, très bien. Je pense que ça va conclure notre épisode numéro 4 d'aujourd'hui.
Oui.
Et puis, on se retrouve dans un mois à peu près.
Fantastique. Probablement un mois et quelques jours, puisqu'on va avoir les Tech Days qui vont arriver début février. Donc,
plutôt un mois et demi, oui. Bon, et bien, à bientôt.
À la prochaine.
Et ben, rendez-vous au Tech Days.